pasteur, Isabelle. Toujours, Isabelle Pierron. Voilà, elle a voulu une présentation toute simple. Donc, une grand-mère. Alors, une grand-mère qui a beaucoup de chance, je serais un petit peu jaloux parce que moi, je n'ai qu'un petit-fils pour le moment.
Ouais, attends, je suis bien plus vieille que toi aussi, maman.
J'attends, hein, pourtant j'ai trois filles, alors j'attends encore.
Hein. Ah, voilà, moi j'ai que trois enfants.
Voilà, donc j'attends sur mes trois filles qu'un petit-fils, Liam, australien, enfin bref, c'est une autre histoire. Donc je me... Isabelle, sans être jaloux, 9 petits-enfants. Sympa ça. Voilà. Et une grande marcheuse, donc je suppose que... Bon, je me permets de tutoyer, c'est pas... Mais je trouve que c'est plus chaleureux. Donc c'est l'amour de la montagne, je suppose.
Ah, oui. Un peu. Hein? De la marche.
Et de la marche.
Même quand je vais à la plage, je marche.
Voilà. Et puis, un dernier petit mot, bibliophile.
Aussi. Ah ben oui, hein? Quand même.
Quand même, voilà. Eh bien...
C'est à moi.
Tu peux allumer l'enregistrement pour... Voilà. Et nous allons maintenant, derrière cette très belle photo d'Albert Schweitzer. J'ai bien prononcé.
Oui, Schweitzer.
Schweitzer.
Voilà. Alors, bonsoir à tous et toutes, et merci des
micros.
Ah oui, pardon. Voilà, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que voilà. Merci à tous d'être là, hein, parce que voilà, ça me fait plaisir de vous voir tous. Merci à l'association, hein, de m'avoir fait signe aussi et de m'avoir proposé ce sujet, Albert Schweitzer. C'est pas moi qui ai choisi, hein, on m'a proposé. Oui, voilà. Et merci à Patricia pour les photos. Voilà, parce que je vais appuyer sur une petite chose, mais c'est elle qui a tout fait. Voilà. Alors j'avoue que je connaissais très peu ce monsieur Schweitzer. Au moins, bon, médecin à l'embaréné, oui, mais ça s'arrêtait là. Hein, voyez. Et en fait, je reconnais un monsieur avec une très riche personnalité qu'il a développée et qu'il a mise au service des autres. Alors, j'appuie. Voilà. Vous pouvez lire en dessous. Que j'ai mis au-dessus d'ailleurs, notre époque n'a nul besoin de beaux discours, mais d'actions humanitaires. Voilà, c'était un peu son obsession, hein, c'était d'agir en faveur des autres, au service des autres. Alors j'espère que je vais éveiller en vous une bonne curiosité et que vous pourrez poursuivre vos découvertes après. Parce que sa personnalité est tellement riche que je me suis quand même limitée dans le temps, n'est-ce pas ? Voilà, 10 pages, donc une heure, voilà, et qu'il y a des sujets que je ne vais pratiquement pas aborder, sauf par une phrase, voilà, et ce sera à vous, si vous voulez, de chercher. Alors, il y a un musée, Albert Schweitzer, en Alsace, qui est extrêmement bien développé, etc., et tout, et puis si vous tapez Albert Schweitzer sur Internet, vous trouverez tout ce que vous voulez. Hein, voilà, parce que qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Je suis allée sur Internet, puis j'ai lu tous les livres, quand même. Voilà, alors il a été écrit énormément de livres, voilà et tout, mais là, il y en a aussi de lui et sur lui. Voilà. Et ça, vous pourrez venir regarder après, à la fin de la conférence, vous pourrez venir regarder, parce qu'il y a, il y en a qui sont simples, il y en a d'autres qui sont plus compliqués, etc. et tout. Voilà, vous verrez ce que vous voulez faire. Voilà. Donc, Albert Schweitzer tenait de tellement nombreux engagements dans le même temps de sa vie, c'était un homme qui dormait peu et qui était toujours épuisé. Voilà. Il y aura ce soir des allers-retours. Je ne peux pas parler de tout en même temps. Hein, donc j'ai essayé de lui mettre des étiquettes et je vais un peu me tenir dans les étiquettes. Voilà. Alors, on va commencer par un regard sur sa vie. Il est né à Kaisersberg, en Alsace. C'est très important, ça. En janvier, ça pose un problème, là ?
Non, non, plus près. Voilà. Non, mais laissez-le.
De tenir.
Laissez-le.
Voilà, voilà. Faites-moi signe si ça. Si je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà. Donc, il est né en Alsace, à Kaisersberg, le 14 janvier 1875, d'un père pasteur et d'une mère dont le père était aussi pasteur. Donc, déjà, ça vous cause aussi un peu un état d'esprit, hein, dans les familles. Hein. Alors, il était le deuxième enfant sur 5. Voilà. Donc, là, vous pouvez voir ici papa et maman qui sont assis sur leur fauteuil, et puis vous avez les 5 là. Qui sont là. Le deuxième enfant sur 5, donc la question c'est qu'il est grand là. Voilà, c'est celui du milieu là. Voilà, le frère Charles, du père d'Albert Schweitzer, qui s'appelle Louis Schweitzer, était le grand-père maternel de Sartre. Voilà. Mais il ne s'est jamais entendu avec Jean-Paul Sartre, qui l'a beaucoup critiqué et qui n'a pas toujours été très correct, même avec lui. Voilà. Il s'entendait par contre très bien avec Albert Camus. quelquefois les membres de sa famille. Hein, pour laisser filer. Alors, le voilà donc à 7 ans, et quand il a grandi, l'Alsace était sous domination allemande, de 1870 à 1918, ce qui va interférer dans sa vie. Donc, son père avait choisi la nationalité allemande en mai 1871 lors du traité de Francfort qui demandait à tous les Alsaciens lorrains de choisir leur nationalité entre la France et l'Allemagne. Son père a choisi la nationalité allemande. Donc, Albert a eu la nationalité allemande. Ça va lui jouer des tours. Il fait ses études de théologie à Strasbourg en même temps que des études de philosophie, en même temps que des études d'orgue, et il est nommé docteur en philosophie et docteur en théologie en 1899 et 1900. Alors, mener deux parcours d'études pour être docteur dans deux matières différentes, ça vous dit déjà un petit peu comment ça fonctionnait dans sa tête, hein, parce que, et l'énergie qu'il avait pour travailler. En 1904, à l'âge de 29 ans, un magazine missionnaire lui tombe dans les mains avec une phrase qui fut le déclencheur d'une grande partie de sa vie: il manque d'hommes de bonne volonté pour aider les gens en Afrique. Ça avait tilt. Et c'est à cette époque qu'il a commencé à développer une vocation au service des autres, et il souhaite répondre à cet appel. Mais la mission protestante de Lambaréné le refuse, car il est un pasteur trop libéral. Eh oui. Non, moi qui suis libérale, j'en ai bavé aussi. Donc c'est comme ça. Hein. Quand on sort des sentiers, quelquefois c'est mal perçu. Alors à 30 ans, que fait-il? Puisqu'il ne peut pas aller à Lambaréné au Gabon en tant que pasteur, eh bien à 30 ans, 1905, il commence ses études de médecine. À 30 ans. En général, c'est l'âge à lequel on a terminé. Et le 18 juin 1912, il épouse Hélène Breslot, infirmière, et qui le secondera à... Voilà, et qui le secondera à Lambaréné. Le 21 mars 1913, à 38 ans, ils partent en bateau à Lambaréné et débarquent au Gabon à la mission protestante, donc de Lambaréné, et un mois de voyage hein, en bateau, et ensemble, ils vont créer l'hôpital de Lambaréné. Alors, voilà, là vous avez une vision de plein de petites maisons. Mais la guerre en Europe se déclenche en août 1914 et la France mobilise ses troupes. Comme de nombreux Alsaciens allemands, Albert va être assigné à résidence et ne peut plus exercer son métier de médecin dès le 5 août 1914. Ça lui est interdit. En novembre, il pourra exercer de nouveau, mais restera sous surveillance. Et l'administrateur de Lambaréné a eu des propos malveillants contre lui. Et en septembre 1917, le ministre des colonies prend un arrêté d'expulsion contre lui en raison de l'attitude suspecte de ce ménage établi avec ses correspondants allemands. Sauf que vous avez compris que Albert, Alsacien, allemand. Donc il parle allemand et il a des amis allemands, etc. Et tout. Donc là, on lui reproche sa vie. Hein? Bon. Alors arrivé en France, donc enfin, il a 24 heures pour quitter Lambaréné. Alors arrivé en France, le couple est interné à Garaison, dans les Hautes-Pyrénées, dans un camp de prisonniers allemands. Ils y restent jusqu'au début 1918 et resteront sous contrôle à Saint-Rémy-de-Provence jusqu'en juillet 1918. Et au sortir de la guerre, il changera de nationalité et prendra la nationalité française. Ils accueilleront leur fille unique, Réna, le 14 janvier 1919. Elle est née le même jour que lui, 14 janvier. Et il reprendra ses activités de vicaire et de médecin à Strasbourg. Peu à peu, il a envie de reprendre son œuvre à Lambaréné. Et en avril 1924, à 49 ans, il reprend son chemin vers le Gabon. Mais seul, car sa femme est de plus en plus malade. Ce retour est très difficile, car le président de la conférence missionnaire lui fait des reproches. Et les autorités coloniales le traitent de bochophile, celui qui a pris parti des Allemands, ce qui est faux. Ce qui est faux. Vous voyez qu'il y a une manière de regarder les choses qui n'est pas exacte, hein, qui est tendancieuse dans le jugement. Il fera souvent des allers-retours entre l'Embarrainée et l'Europe et il y retournera de 1959 à sa mort le 4 septembre 1965 et il est inhumé à l'Embarrainée, au Gabon. Voilà, ça c'était un aperçu et maintenant je vais rentrer dans certains détails et nous allons commencer par musicien. Il entreprend des études musicales dès l'âge de 10 ans et donne son premier concert à 16 ans en jouant à l'orgue le Requiem de Brahms. Alors écoutez, c'est pas simple hein, quand même, hein, la musique, hein, Brahms. Il poursuivra ses études avec l'organiste de Saint-Sulpice à Paris tout en faisant ses études. Organiste de grand talent et organiste de la société Bach, il donnera de très nombreux concerts pour la musique et aussi pour gagner beaucoup d'argent pour l'Embarrainée. C'est ça qui va lui permettre de créer l'hôpital et de le recréer après. Et Albert Schweitzer a toute sa vie prêché et joué de l'orgue. Et il est passionné pour Bach. Alors là, vous le voyez, Albert Schweitzer sur son orgue. Énorme orgue. Presque tous ses concerts sont destinés donc à recueillir des fonds pour l'Embarrainée. Il jouera dans toute l'Europe et même aux États-Unis en 1949. Il a écrit une biographie de Jean-Sébastien Bach que je n'ai pas achetée parce qu'il fait 900 pages. Je ne suis pas sûre que je vais lire. 900 pages. Vous pouvez le trouver sur le Fnac en e-book. Vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur. Voilà. Et pour lui, Bach illustre la Bible en écrivant la musique. Et il associe Bach et Kant, deux génies du XVIIIe siècle, et aussi Bach et Michel-Ange, afin de montrer les profondeurs des œuvres musicales. C'était un homme d'une culture absolument étonnante, hein, je veux dire, au niveau de l'art, de la musique, moi j'ai été complètement épatée. Hein. Alors, il soutient que la musique de Bach doit être jouée dans son temps et non avec les moyens modernes. C'est-à-dire qu'il ne supportait pas que certains joueurs modernisent ce que Bach avait écrit en suivant ce que Bach avait écrit, mais en le jouant différemment. Ce que fait, par exemple, ce qu'a fait Glenn Gould, hein, qui est mort il y a déjà dans les années 55. Je veux dire, bon, que moi j'aime beaucoup et tout, parce qu'il joue Bach très différemment, mais bon, Schweitzer, c'était l'horreur, absolue. Hein, voilà. Pour lui, hein, la valeur d'un art authentique est contre des prouesses techniques. Il ne faut pas tout mélanger. Et une œuvre de Bach, pour lui, est de l'ordre de la prière et du culte. Ce n'est pas pour se faire valoir. Alors il va se battre hein, aussi dans son travail pour les vieux orgues à réparer, à remettre en état, plutôt que de les laisser tomber, de les enlever et de construire un neuf avec beaucoup moins de son. Voilà. Donc là, il a été le concepteur de cet orgue construit par Frédéric Kupfer et inauguré en 1924 à Selancourt dans le Doubs. Il s'est occupé d'énormément de choses comme ça. Il suivait ça de près. Hein. Ses idées, il les mettait en pratique. Hein. Je pense que de temps en temps, quand on le rencontrait, il fallait tenir bon aussi, hein, certainement, avec son caractère. Voilà. Alors, on va s'arrêter 4 minutes. Je voudrais vous faire écouter
un morceau de Bach. Jouer sur l'orgue.
Voilà, on fait une petite pause musicale, 4 minutes.
Thank you.
Alors, j'aurais dû le dire au départ, c'était le comptable BMW 147, Jésus comme un joie d'honneur. Alors, nous allons parler maintenant du théologien, du prédicateur et du pasteur. Alors, Schweitzer était pasteur luthérien, hein, donc dépendant de Luther, ce qui était assez fréquent en Allemagne, majoritaire en Allemagne. Moi, je suis pasteur, mais calviniste. Alors, de temps en temps, quand je dis ces trucs, bon, je ne suis pas toujours d'accord. Mais bon, c'est ça aussi la discussion. C'est pour ça qui est intéressant. Alors, tour à tour, il occupe les fonctions de docteur en philosophie dès 1899, de pasteur à la paroisse Saint-Nicolas, avec catéchète et prédicateur, parce que quand il y avait plusieurs pasteurs dans une paroisse, chacun avait son boulot. Docteur en théologie en 1900, il va être professeur à la faculté de théologie protestante de Strasbourg pendant 10 ans, de 1902 à 1912, où il est chargé de l'enseignement du Second Testament. Schweitzer aimait particulièrement être prédicateur, car il trouvait merveilleux de pouvoir parler à une assemblée tous les dimanches des grands problèmes que pose à nous tous notre existence. Donc, ce qui était assez formidable, c'est que tout pasteur qu'il était, il parlait bien sûr de la Bible, de l'Évangile, de Jésus, etc. et tout, et c'était dans une parole qui rentrait dans la vie active de tous ceux qui étaient là. Et ça, c'est merveilleux. Parce que je veux dire, parler de Jésus d'il y a 2000 ans, oui, mais comment le vivre aujourd'hui si la personne qui en parle ne fait pas le pont, le lien? Voilà. Ces prédications étaient majoritairement centrées sur les paroles de Jésus, sur celles de Paul, pour les faire connaître, et il disait que ces prédications étaient sa parole sur la parole, avec un P majuscule. Et il affirme que les quatre évangiles ne sont pas des biographies de Jésus, mais des témoignages de foi rendus à Jésus. C'est vrai que ça peut être un regard tout à fait intéressant pour lire les évangiles. Il avait décidé qu'il avait le droit de vivre pour la recherche théologique et pour l'art musical jusqu'à 30 ans, mais qu'ensuite il lui faudrait se consacrer à un service purement humain. Difficile d'ignorer la symbolique christique d'une telle décision. Savez-vous à quel âge Jésus a commencé à travailler ? À 30 ans. Et Albert Schweitzer s'est associé à ça. Il avait le clic. Pour lui, l'essentiel de la vérité chrétienne n'est pas dans le dogme. Ah, ça c'est magnifique ça, c'est précieux. Parce que le dogme, ce sont nos décisions. Mais est-ce que la vérité de Jésus est dans nos décisions ? Donc, la vérité chrétienne, ni dans le dogme, ni dans telle ou telle théologie, mais dans l'application pratique de l'Évangile et la volonté de la simple pratique chrétienne. Pour lui, ce n'est pas la peine de discuter, de faire des dogmes, etc. et tout sur l'Évangile. L'important, c'est d'obéir à la parole de Jésus et de mettre en œuvre ce qu'il nous demande. La foi, pour lui, la foi vive, entraîne l'action, et l'action est là pour nourrir une vie intérieure fondamentale et première. C'est ainsi qu'au confirmant de sa paroisse, il leur a dit « Et surtout, restez toujours en pleine action. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'est l'action et quel rôle elle joue dans la vie intérieure. Que vaudrait un homme qui n'agit pas, qui n'utilise pas ses dons et ses forces et toutes ses possibilités pour apporter son aide là où les hommes en ont besoin. Parler, agir, se taire, ce sont là pour Albert trois réalités qui s'enrichissent mutuellement et forment un tout. La qualité de nos activités compte seule et non la quantité. Ça, il était quelqu'un d'assez raisonnable dans son jugement, c'est-à-dire qu'il ne jugeait pas les autres sur ce qu'ils faisaient, la quantité, etc. et tout. Il disait l'important, c'est d'agir, mais pas d'en faire trop ou d'en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'important, c'est de la qualité de ce que je fais. Comment je suis au service de l'autre? Dans quelle qualité? Et dans son ouvrage consacré aux recherches concernant la vie de Jésus, il montre que chaque historien a construit son Jésus selon son idée, son époque, son rationalisme, son côté romantique, etc. Et tout. Dans chaque personne qui écrit sur Jésus, il y a une image de Jésus. Oui, alors, si vous lisez un peu des livres sur Jésus, vous le savez. Mais si vous lisez déjà les quatre évangiles, vous avez déjà quatre regards sur Jésus. Hein, ça, c'est déjà clair. Donc Albert se soumet à la vérité dans ses lectures de la Bible. Il dit y être contraint, n'hésitant pas à penser contre lui-même. C'est-à-dire que quelquefois, il lisait des passages, et ce n'était pas du tout ce qu'il avait envie de croire. Mais il se bataillait, il travaillait sur les traductions, il travaillait sur la théologie, etc. Et tout, pour essayer de comprendre, il se faisait la guerre à lui-même, en disant, mais non, c'est pas possible, et il se bagarrait pour donner raison au texte qui était écrit dans la Bible. Et dans ses ouvrages de théologie, il est souvent mordant et impitoyable avec ceux qu'il prend en défaut. Il nous arrive de mettre en doute l'historicité des paroles de Jésus parce qu'elles nous dérangent. Ou on les oublie. On ne garde que celles qu'on peut vivre facilement sans trop se casser la tête. Pour lui, il s'agit d'un acte de pure violence pour accommoder les paroles de Jésus à notre manière de voir les choses. Pour lui, c'est insupportable qu'on fasse le choix dans ce que Jésus nous demande de faire. Pour lui, c'est insupportable. Et sa compréhension du royaume de Dieu s'inscrit sur la toile de fond de l'apocalyptique juive des contemporains de Jésus et des prophètes d'Israël. Et il cite notamment beaucoup Daniel, Enoch, Baruch, etc. Et tout. Il a beaucoup travaillé sur le Premier Testament, chose qui est très importante, mais qui malheureusement n'est pas le cas de toutes les personnes engagées dans les églises. Voilà. Et lui, il faisait ça. Pour lui, le royaume prêché par Jésus est destiné aux élus qui s'y seront préparés par leur piété et leur moralité. Alors, ça c'est quelque chose avec lequel moi je ne suis absolument pas d'accord, et beaucoup d'autres théologiens ne sont pas du tout d'accord, c'est-à-dire que Jésus n'a jamais mis de condition à notre salut. Et lui, il en met. Non, ça m'a un peu énervé. Mais... bon, mais voilà, donc Jésus n'a jamais posé de condition, et lui dit... quand je fais ça, ça veut dire qu'il y a des guillemets, hein, je cite Albert, vous avez compris, une éthique conditionnelle, c'est-à-dire une manière de vivre conditionnelle. C'est-à-dire, si on ne se comporte pas bien, on n'ira pas au royaume, on ne sera pas sauvé. Bon, alors ça, c'est un peu le problème, voilà. Bon, il continue. Quand je suis pasteur, bon, je ne peux pas tout... parce que si je vous l'ai dit comme ça, vous allez dire, ah ben elle le croit, alors non, je précise que non, je ne suis pas d'accord. C'est pas la seule chose. Mais donc il continue et dit, il ose dire que Jésus s'est trompé, car le royaume n'a toujours pas fait irruption. Alors c'est vrai qu'il y a des paroles de Jésus qui, à l'époque de Jésus, il y a eu certaines phrases où il disait que le royaume allait arriver là, demain après-demain. Sauf que bon, voilà, c'est pas. Donc effectivement, il constate que le royaume n'a pas fait irruption, mais est-ce que Jésus s'est trompé? Est-ce que plutôt Jésus vivait dans une époque totalement différente? C'est très difficile de porter des jugements sur Jésus 2000 ans après. On ne peut pas penser comme lui. On peut lui obéir quand il nous dit « pardonne, ne juge pas, aime les autres ». Oui, ça traverse les siècles. Mais il y a d'autres critères sur Jésus qu'on ne peut pas cataloguer, juger, etc. C'est pas possible, ça. Voilà. Et il accepte quand même, Albert Schweitzer, que Jésus reste étrange. Cette part qui nous le rend insaisissable n'est-elle pas reliée précisément à la catégorie de la transcendance? Je vous rappelle que la transcendance, c'est ce qui se situe au-delà d'un domaine, pris comme référence, de ce qui est au-dessus. Transcendance, c'est en général ce qui vient d'ailleurs, notamment souvent du ciel ou de Dieu. Ainsi, Jésus échappe à notre maîtrise, et il n'est pas façonné à notre image. Ça, Schweitzer est très ferme là-dessus. Nous n'avons pas à façonner notre Jésus. Il faut l'accepter tel qu'il est, même s'il nous dérange. Et quelquefois, il nous dérange beaucoup, effectivement. Voilà. Jésus n'est pas un Jésus qui nous convient. Ce n'est pas lui qui dépend de nous. C'est nous qui dépendons de lui. C'est alors seulement que nous pourrons entendre vraiment, pour ce qu'il est, l'appel exigeant du Seigneur de notre vie. Il faut éviter de moderniser Jésus, de spiritualiser sa prédication en lui enlevant ce qui nous dérange. Alors, dans sa vie, Jésus sent... Alors, ça c'était là, j'ai oublié, voilà, celle-là, voilà. ce qui reste très important pour Albert Schweitzer, c'est cette phrase de Jésus qu'on trouve dans Matthieu, dans Jean, etc. et tout, « Toi, suis-moi », et il les met en face de ce qu'il faut accomplir en son nom. Voilà, pour Jésus, c'est ça, c'est le message très important qui a fait tilt chez Schweitzer. Voilà. Et pour lui, ce qui reste fondamental, c'est son message éternel d'amour et d'espérance. C'est-à-dire, quand il dit éternel, ça veut dire que ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait il y a 2000 ans, a encore du sens pour nous aujourd'hui. Ça a traversé le temps. Voilà. Donc, il y a pas mal de livres qui ont été écrits par Schweitzer là, sur ça, que je n'ai pas lu, je reconnais. Le problème de la Sainte-Seine, une histoire des recherches sur la vie de Jésus, histoire des recherches paulinienne de la réforme à nos jours, et la mystique de l'apôtre Paul notamment. Bon, voilà, il a écrit énormément de livres, mais beaucoup de livres en tant que théologien aussi. Voilà. Alors, il est aussi philosophe. Il reconnaît être moins doué en théologie qu'en philosophie. Il préfère la philosophie que la théologie. Et sa thèse de doctorat en philosophie fut consacrée à la philosophie de la religion de Kant, publiée en 1899, et il continuera de travailler sur une lecture critique de la civilisation et des philosophes qui la sous-tendent. Pour lui, pour Albert Schweitzer, la civilisation est une entreprise dynamique où le progrès n'a rien à voir avec une évolution automatique. Le progrès est le fruit d'une volonté, d'un combat, de choix. Et il utilise beaucoup dans ce contexte le mot spirituel, qui pour lui, bien sûr, relève de l'esprit, et donc de la réflexion et de la pensée. En fait, il critique énormément les civilisations en disant qu'on est rentré, effectivement, c'est ce qu'on, nous, en tout cas, on vit très très fort aujourd'hui, dans les automatiques, dans les consommations, etc. et tout. Le spirituel disparaît un petit peu de notre société de civilisation, en ce moment. Hein, je veux dire, sauf si on va chercher un peu à droite à gauche, etc. et tout. Donc déjà, lui, il y a 100 ans, le ressentait. Et avec le problème de l'éthique dans l'évolution de la pensée humaine, il va fonder l'éthique sur le respect de la vie. L'éthique vient de éthos en grec, qui signifie manière de vivre. Ainsi, pour lui, il n'y a pas de manière de vivre, donc d'éthique, sans respect de la vie. Alors, à ce propos, je vais vous raconter une histoire assez souriante. Donc, c'est écrit dans « Respect et responsabilité pour la vie » et dans l'avant-propos, il y a raconté son histoire. Le respect de la vie est un sentiment qui a ravi Albert Schweitzer un soir de septembre 1915 sur le fleuve Ogoué, dans la lumière déclinante du soleil couchant, à la vue d'un troupeau d'hippopotames qui se dispersait à l'approche du bateau. Soudain, oh oh ! Cette exclamation, Erfurt vor dem Leben, mélange de vénération et de crainte, de stupeur et d'émerveillement, d'horreur peut-être, horreur du sacré devant la vie, le phénomène énigmatique de la vie, présent là dans ces bêtes curieuses, incongrues, énormes, indifférentes ou menaçantes, sans grâce à nos yeux, et dont les hommes ne sauraient que faire. Ça ne sert pas grand-chose, hein, les hippopotames. Hein. Pourtant, elles sont là. Chevaux du fleuve. Hippopotame, c'est ce que ça veut dire, hein, chevaux du fleuve. Elles existent, et de ce fait, leur existence est justifiée, quelque part. Et si la leur est justifiée, la nôtre doit l'être également, non? Et là, il se base, un pasteur, un bibliste, il se base sur un récit à la fin du livre de Job. Au milieu de la tempête, l'Éternel dit à Job, « Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie, comme à toi. » Dans Job 40, hein, le dernier chapitre. Et l'Éternel lui énumère ses différentes caractéristiques, étranges, monstrueuses, qui surpassent l'imagination humaine. À ce Job qui se plaint, qui se permet de dénoncer l'absurdité de la création, l'Éternel démontre que lui, petit homme, n'est pas la mesure des choses, et qu'il ne lui convient pas de juger, jusqu'à ce qu'enfin Job s'écrase et du même mouvement se libère, demande grâce, rend grâce en reconnaissant. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Théodore Monod fut le premier à rapporter cette scène des hippopotames et du philosophe dans une émission de la France Libre sur Radio Dakar en 1941. Et pour Alexandre Belchauser, il s'agit ici de remettre en place un individualisme positif, constructif, qui refuse de s'abandonner aux institutions qui trompent et manipulent. Donc, pour lui, une grande nécessité d'un retour à l'esprit face à la violence, au meurtre et à la barbarie. Alors, c'est vrai qu'en Afrique, les chasses, ça y allait, hein, très fort. Et pour qui? Pour les Occidentaux. Ce qui ne l'a pas empêché de vivre ceci un peu plus tard. Quant à l'hippopotame, parle-t-il dans son livre sur l'hôpital, quant à l'hippopotame qui fréquente les parages de l'hôpital, j'ai le regret de devoir lui dresser un fâcheux témoignage. C'est un personnage grossier et méchant. Saisi d'une rage aveugle, il s'en prend aux pirogues qui abordent, les renverse et en poursuit les occupants dans l'eau. C'est ainsi qu'il a tué un homme et grièvement blessé une femme hospitalisée chez nous. Une nuit de lune, nous l'avons vu, M. Goldsmith, M. Holm et moi, se précipiter avec violence contre une pirogue dont les pagayeurs n'avaient pas soupçonné la présence. Ils ont pu tout juste éviter son attaque en virant prestement de bord. Et comme il est devenu un danger pour ceux qui arrivent à l'hôpital ou on part de nuit en pirogue, son arrêt de mort a été prononcé. Mais en secret, nous souhaitons que la sentence n'ait pas à être exécutée et que le monstre, averti par quelque instinct, préférera aller ailleurs exercer sa sauvagerie et sa méchanceté. Tu vois ça dans les lettres, le bouquin du docteur Belchauser. Voilà. En fait, il ne faut pas tuer les animaux, il ne faut pas tuer. Voilà. Sauf que là, il y avait une situation un petit peu délicate, voilà, un peu difficile. Et dans sa critique donc, de la civilisation, pour revenir à ça, Albert Schweitzer apporte plusieurs grandes questions, notamment celle du nationalisme qu'il dénonce vivement, et même avant 39-45. Il voit dans le nationalisme un patriotisme impur poussé jusqu'à l'absurde, que la raison, la morale et la culture ont déserté et dont les guerres sont le fruit. Il plaide en tant que philosophe et théologien pour une religion qui se débarrasse de spéculations dogmatiques et qui soit avant tout mystique, c'est-à-dire spirituelle et éthique. Il estime que par manque de spiritualité, le monde moderne se dégrade et devient inhumain. Il appelle au respect de la vie, traduction en langage moderne de ce qui se trouve au cœur du message de Jésus. Il faut accueillir notre esprit et le faire travailler. Il critique notre civilisation dans le sens qu'elle s'attache à des réalisations pratiques, scientifiques, techniques, artistiques, mais qu'elle ne s'occupe pas des manières de vivre. À ses yeux, notre attitude vis-à-vis du monde et de la vie sont essentielles. Voilà. Et pour lui, il place l'éthique en valeur spirituelle de la religion. Ainsi, à ses yeux, nous pouvons nous dire croyants et ne pas vivre en tant que croyants si notre vie n'a pas de sens tourné vers les autres. Difficile, hein, quelquefois, d'être 100% dans nos lignes, hein, je le reconnais aussi. Et le Dieu d'amour, qui nous invite à l'amour, n'est pas un Dieu découvert dans la nature, il est une volonté qui nous envoie sur les chemins de l'éthique et de l'action. Alors il va mettre tout ça en œuvre quand il va arriver comme médecin à Lambaréné. De 1905 à 1912, il fait ses études de médecine, et attention, sa thèse de doctorat en médecine fut originale, consacrée au jugement psychiatrique sur Jésus, porté par des auteurs qui démontraient la paranoïa, la démence ou l'épilepsie d'un juif agité aux idées extravagantes. Alors, rien qu'en lisant le titre, j'ai pas lu la thèse du doctorat de Schweitzer, mais rien que le titre, je dis « Ah, quand même !» Bon, voilà. Donc, en fait, il n'était pas, vous avez vu, tout musicien, théologien, pasteur, etc., et tout, mais il n'est pas cloisonné. Tout circule, hein, tout circule dans sa vie. Et le 18 juin, donc 1912, le pasteur luthérien de 38 ans épouse la fille d'un professeur de l'université de Strasbourg, Hélène Breslau, qui vient de terminer une formation d'infirmière. Albert reçoit le titre de docteur en médecine en février 1913, et comme médecin, il affirme que cette nouvelle activité de médecin consisterait non à parler de la religion d'amour, mais à la pratiquer. Il a ainsi parlé d'une prédication par les actes en étant médecin. Et lorsqu'il arrive avec son épouse Hélène Breslot à Lambaréné, dans l'ancienne colonie française de Gabon, en Afrique équatoriale, le 16 avril 1913, le couple est sans expérience professionnelle, ni en médecine, ni comme infirmière, ils sont juste diplômés. Et ils ne disposent que de quelques médicaments, instruments et articles de pansement amenés dans les malles de cabine. L'intention est ambitieuse, mais noble, délivrer les populations de la région des ravages de la malaria, de la maladie du sommeil et de la lèpre. Alors, je vous ai fait mis une carte du Gabon, parce que bon, on ne sait pas où c'est le Gabon. Voilà, donc il est sur l'ouest de l'Afrique, donc là, avec le Cameroun au-dessus, la Guinée au-dessus et en dessous le Congo. Deux semaines après leur arrivée, ils réceptionnent 70 caisses de médicaments et d'instruments médicaux et chirurgicaux. Mais, en 1917, Albert et sa femme sont faits prisonniers par les Français parce que allemands. En 1924, après 7 années les plus sombres de sa vie, il repart à Lambaréné où il reconstruit son hôpital. Il est très discret sur ce qui s'est passé pendant 7 ans, mais il a été prisonnier, hein, enfermé parce qu'il était allemand. Donc, il repart à Lambaréné et il reconstruit son hôpital qui était trop petit le premier, donc il est un peu plus loin, en fera beaucoup plus grand. De 1927 à 1939, il fait plusieurs séjours en Europe, tout en s'occupant de Lambaréné, où il passe 10 ans d'affilée entre 1939 et 1948. Et son action a été très controversée, car il a refusé de moderniser son village-hôpital, où les malades amènent leur famille quand ils viennent se faire soigner. Ses adversaires lui reprochent une vision traditionnelle et passéiste de l'Africain. Et ses partisans rétorquent qu'en maintenant un lieu semblable au village reculé de la brousse, Schweitzer permet à des gens qui ne supporteraient pas la rupture de l'hôpital d'être quand même bien soignés. C'est-à-dire que tout son hôpital est créé en huttes qui sont familiales, avec un coin de cuisine, etc. et tout, où la famille faisait la cuisine pour le malade et quelquefois pour d'autres en même temps. Voilà. Et pour lui, c'est le respect fondamental de la vie africaine. Voilà. Mais il a été très critiqué pour ça. Voilà. Avec son prédicant. Comme médecin, Albert Schweitzer était très sensible aux souffrances de ses malades. Hop, là, attendez, hop, j'ai sauté un passage, pardon, je reviens en arrière. L'hôpital de Lambaréné, donc, fut d'abord construit sur un terrain de la Société des Missions de Paris. Très vite, les malades arrivèrent très nombreux. Paludisme, lèpre, pneumonie, infection cardiaque, urologie, chirurgie. Et en 1927, Schweitzer transfère son hôpital à 3 km pour l'agrandir. Il a conçu son hôpital, donc en village-hôpital, comme ça, tous ceux et celles qui accompagnaient le malade étaient logés et quelquefois restaient longtemps, s'il fallait du temps pour soigner. Il refusait de couper les malades de leur famille et c'est le premier hôpital qui a agi ainsi. Voilà. Donc là, il est à Lambaréné, là, avec son pélican. Comme médecin, il était très sensible aux souffrances des malades. Voilà ce qu'il dit. « J'appartiens malheureusement à cette sorte de médecin qui ne possède pas la robustesse d'âme qu'exige le métier, mais s'inquiète sans cesse de l'état de leur grand malade. J'ai vainement essayé d'acquérir le sang-froid qui permet au médecin, tout en compatissant aux souffrances de ses patients, de ménager, comme il est nécessaire, ses propres forces. Mais pour lui, pour Schweitzer, la souffrance est pire que la mort. Elle est un despote terrible, un maître redoutable, qui frappe toutes les créatures indistinctement. Et la création de l'hôpital à Lambaréné va relever pour lui d'une fraternité mobilisatrice. Être moral, c'est sortir de notre égoïsme, c'est refuser de rester étranger au milieu qui nous entoure, c'est comprendre les expériences vécues par les autres et compatir à leurs souffrances. Ça, c'est la grande écoute de l'autre en se mettant en arrière, en écoutant vraiment. Pour Albert, la médecine et le colonialisme ont été liés à ses yeux et aux yeux de beaucoup d'autres. Et son l'identification de la mémoire de Schweitzer avec celle du colonialisme et la relégation de son travail médical à une simple distribution des pilules, sans réel exercice de la profession médicale, participe d'une légende et de contre-mythes. Donc ça, dès que quelqu'un se fait un peu connaître, il y a plein d'histoires bizarres qui circulent. Et ça, c'est faux. Il ne distribue pas les pilules sans exercer son métier, c'est faux. Il accouchait les femmes, il opérait, alors qu'il n'était pas chirurgien, mais il opérait, etc. Et tout. Donc il utilisait son métier à fond. Voilà. Schweitzer demeure un sujet de controverse opposant l'idéal du bon chrétien occidental et l'idée du méchant colonialiste paré du manteau de philanthrope. Schweitzer symbolise aussi, désormais, la philanthropie médicale occidentale fondée sur le respect de la vie, présentée comme un devoir d'humanité. Adulé presque partout, Schweitzer reçoit le prix Goethe en 1928 et c'est à l'initiative des universitaires américains, y compris d'Harvard et de Yale, qu'un hommage lui est rendu en 1945 à travers un ouvrage, tandis que Time Magazine le proclame l'homme le plus important du monde en 1949. Alors j'ai encore un truc de retard, le voilà avec des petits bébés africains qu'il soigne et son épouse à côté de lui. Voilà. Voilà, le 11 juillet 1949, il était en tête du Time Magazine, donc voilà, qui proclame l'homme le plus important du monde en 1949. Symbolisant la philanthropie occidentale, Schweitzer collectionne hommages et distinctions au moment où il délaisse la pratique médicale pour s'appliquer davantage à administrer et promouvoir son institution. Cette prise de distance de l'activité médicale lui vaut la salve de critiques qui se sont abattues sur lui. L'article de Jeanne Rouche, une femme, de 1962, 3 ans avant la mort d'Albert Schweitzer, elle écrit « Le scandale de l'embarras aîné ouvre le bal en ces termes. La réalité, la voici. Le Gabon est l'un des pays d'Afrique le plus riche en équipement sanitaire. Au milieu de cet effort de modernisation, une plaie, un cloaque, ce que l'on appelle l'hôpital de l'embarras aîné, conçu selon des principes typiquement racistes. Le monde entier imagine que l'embarras aîné est le seul coin où l'on puisse se soigner en Afrique, alors que l'hôpital du docteur Schweitzer soigne plus mal que partout ailleurs en Afrique. » Vous voyez ? C'est rude hein, d'entendre des choses pareilles, parce que dire que l'hôpital de l'embarras aîné est raciste, alors que c'est vrai, il y a des blancs, il y a des infirmières, il y a des médecins qui ont après sont venus avec Schweitzer pour l'aider, etc. et tout, ben, ils soignent les Africains. Donc où est le racisme là-dedans? J'ai un peu de mal à comprendre là, voilà et tout. Et puis disant qu'ils soignent mal, enfin, voilà, ça c'est un peu le problème des personnes qui font du bon boulot. Qui sont descendus par d'autres. Et quand Albert Schweitzer parle du colonialisme, il en souligne exclusivement les méfaits. Dominer un pays pour des avantages matériels, pratiquer un commerce qui supprime toute liberté, remettre l'esclavage en route, etc. Donc il est contre, archi contre le colonialisme. Mais l'entreprise africaine de Albert Schweitzer a plus d'une fois été attaquée comme relevant de cet impérialisme qu'il dénonçait lui-même, mais que les autres ne cherchaient pas trop à voir. Pour bien saisir l'attitude de Schweitzer à l'égard des Noirs, il faut lire à l'orée de la Forêt Vierge. « Jadis, le fait de croire que les hommes de couleur étaient vraiment des hommes et devaient être traités humainement passait pour une folie. Or, la folie est devenue vérité. » En 1951, il est élu à l'Académie des sciences morales et politiques et en 1953, il reçoit le prix Nobel de la paix donné en 1952. Mais en 1952, il n'avait pas le temps d'aller le chercher à Oslo. Donc il a dit l'année prochaine. Donc il est allé le chercher l'année d'après. Il prononce à Oslo son célèbre discours sur le problème de la paix. Vous pouvez le trouver sur Internet. Il figure tout et il est très, 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 très long. Et en particulier, il va parler contre l'armement nucléaire. Et dans ce combat, il va se lier avec Albert Einstein et Robert Oppenheimer, qui sont contre tous les deux cet armement nucléaire. Alors, avant la conclusion, quand même, voici. Ah, voilà, le prix Nobel de la paix, photo qui a été faite. Voilà, c'est encore écrit en allemand, vous voyez. Hein? Voilà. Ça, c'est tous les prix, toutes les distinctions qu'il a reçues. Il n'est pas passé inaperçu, hein. Entre la Suède, l'Allemagne, l'Angleterre, etc., les États-Unis, voilà. Voilà, avec Einstein et Robert Oppenheimer, avec qui il va travailler contre l'armement nucléaire. Voilà, l'icône africaine. Alors là, j'ai fait une photo, deux pages de ses livres, et il a écrit je ne sais combien de livres, je ne vais même pas tout compter, énormément de livres. Donc voilà, une deuxième page. Voilà. Vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Voilà, si vous ne savez pas quoi lire, vous pouvez demain aller acheter un bouquin sur le PDF. Voilà. Voilà. Et Gilbert Cesbron a fait ce film, Et les minuit, docteur Schwedler. Voilà. Alors, paroles et actes sont liés dans un incessant mouvement d'aller et retour dans la vie d'Albert Schwedler, sans oublier l'action qui est liée au recueillement et au silence, dont il a trouvé l'exemple dans la pratique juive du sabbat. Alors, je vais finir avec quelques mots essentiels. Dans la manière dont il écrit dans ses livres, etc., et tout, il y a des mots qui reviennent très souvent, qui sont essentiels pour lui. Le premier mot qui revient très souvent est la notion de renoncement, qui est centrale dans sa pensée, dans son œuvre, dans sa vie, et qui est aussi liée à sa compréhension de la croix. Pour lui, mais pas pour tout le monde, la mort de Jésus est un acte libre et volontaire destiné à hâter la venue du royaume de Dieu, sacrifice choisi et non soumission à une exigence divine. J'avoue que là, je ne suis pas d'accord. Il faut simplement relire Gethsemane et voir que Jésus ne comprend pas ce qui se passe. Hein. Donc, dire que Jésus a choisi de mourir, oui, après une nuit de réflexion en esprit avec l'Éternel, mais pas à la première demande. Quand on relit Gethsemane, il faut lire les questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Et qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me laisses tomber? Enfin, je veux dire, donc, de là à dire que, comment ça s'appelle, Jésus, sa mort est un acte libre et volontaire, j'y arrive pas. Voilà, vous avez compris. Voilà. Cette compréhension, néanmoins, d'Albert Schweitzer, a orienté toute sa vie dans le don de soi. Hein. Je veux dire, bon, Jésus a fini par donner sa vie, parce que sinon on n'en entendrait pas parler aujourd'hui. On ne serait pas assez fidèle si, je veux dire, il n'était pas mort. S'il était rentré à Nazareth, on l'aurait tous oublié, tout le monde, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Alors que sa mort, effectivement, son don de soi, d'accord. Mais la compréhension d'Albert est un peu curieuse. À la sortie de l'adolescence, Albert Schweitzer juge scandaleux de vivre une vie heureuse alors que tant d'autres sont exclus de cette vie heureuse. Et nous devons donner en échange de tout ce que nous recevons, quelque chose de notre vie pour les autres. C'est un renoncement positif. Nous renonçons à quelque chose de notre vie et nous l'offrons à l'autre. C'est positif. Voilà. Deux mots qu'il faut accorder. Renoncement positif, ça donne à réfléchir. Nos privilèges sont beaucoup plus nombreux que nous ne le pensons, dit-il. Une bonne santé, des dons naturels, des capacités intellectuelles, des succès, du droit, du bonheur en famille, des loisirs, du repos, un bon sommeil et tout ce que nous possédons. Alors, mille manières de mettre en œuvre ce renoncement actif à partir d'un choix totalement libre et personnel. Et aussitôt après avoir expliqué tout ça, il dit « interdiction ». De juger quiconque dans ce qu'il fait. Car nous n'avons pas à juger du renoncement de l'autre ou du non-renoncement de l'autre. Ce n'est pas à nous de juger, d'intervenir. C'est à chacun de prendre sa décision. Et ça, je trouve que ça, c'est assez formidable de dire ça et de dire stop, attention, ce que je dis te concerne. Mais ne retourne pas ce que je te dis contre les autres. Ça, je trouve que c'est assez formidable. Le deuxième mot, à ses yeux, qui est nécessaire de cultiver, c'est la reconnaissance. et non le sentiment de mérite ou d'autosatisfaction. La mesure du sacrifice reste le secret de chacun. Chacun agira comme il le pourra et voudra. Mais pour lui, la reconnaissance est souvent oubliée, car nous avons souvent du mal à reconnaître les grands et petits sacrifices des autres ou des dons des autres à notre égard. C'est normal. C'est normal. Bon, aller jusqu'à la reconnaissance, c'est un peu plus grand. Voilà. Donc là, il dit qu'il faut faire très attention à tout ce que nous recevons des autres, que ce soit le sourire, que ce soit le geste, que ce soit quelque chose. Voilà. Et de ne pas dire que c'est normal, mais de reconnaître ce que nous recevons. Pour lui, c'est essentiel. Se reconnaître dans cette solidarité discrète, c'est reconnaître aussi sa nécessaire humilité. Nous avons besoin des uns des autres. Nous ne pouvons pas vivre tout seuls. Ça fait du bien hein, d'être tout seul de temps en temps. D'accord. Mais on ne peut pas vivre tout seul tout le temps. Voilà. C'est ainsi que la politesse du cœur, comme il dit, n'a rien à voir avec les convenances, mais surtout avec l'attention à autrui, les égards et la discrétion. C'est alors qu'Albert Schweitzer associe la reconnaissance à la grâce. Rendre grâce à l'éternel, rendre grâce à l'autre. Voilà, rendre grâce, reconnaître, rendre grâce. Le troisième mot important, il a revisité la Bible avec un regard neuf et une pertinence d'ordre pratique. Sous-entendu, lire la Bible, ce n'est pas seulement la lire, mais surtout la mettre en pratique. Quand il parle de la religion de l'amour, pour lui, elle doit être vue avec une visée universaliste. Chaque religion, dit-il, quelle que soit sa doctrine, est une vraie religion si elle invite l'homme à se dévouer à Dieu par amour et à servir par amour le prochain. Ça, c'est le point commun qu'il donne à toutes les religions. Et c'est vrai que, curieusement, on le trouve de manière différenciée, mais on le trouve dans toutes les religions. Pas forcément mis en avant, mais... L'amour évangélique suppose un dévouement actif où le renoncement se veut constructeur, l'amour un combat, parfois, et une force qui décuple nos propres forces. Que les commandements de l'amour de Dieu et du prochain étroitement unis inspirent la conduite chrétienne est une évidence pour Albert Schweitzer. Et il se rattache aux deux commandements que donne Jésus. Tu aimeras l'Éternel, ton Elohim, avec tout ton cœur, avec tout ton être et avec toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deutéronome et Lévitique. Commandement repris par Jésus, qui, je vous le rappelle, n'avait qu'une seule culture religieuse, le Premier Testament. Donc, curieusement, quand Albert Schweitzer annonce à ses proches sa décision de faire médecine pour devenir missionnaire en Afrique, les sarcasmes et les critiques lui furent copieusement envoyés. « Je fus frappé, dit-il, de voir combien ils étaient loin de comprendre que le désir de servir l'amour prêché par Jésus put orienter un homme dans une voie nouvelle. » Il nuance trois manières différentes l'affirmation selon laquelle le christianisme est la religion de l'amour. Premièrement, les racines du christianisme plongent dans le judaïsme, dont il est inséparable et auquel il est infiniment redevable. C'est ce que je vous ai bien de vous dire. Toute la culture de Jésus était juive. Premier Testament. Donc tous les chrétiens devraient connaître le Premier Testament sur le bout du doigt aussi, pour bien comprendre ce qu'a dit Jésus. Voilà. Et modifier un peu le Second Testament, qui quelquefois déconne un peu. Bon, excusez-moi pour la grossièreté. Le véritable miracle de Jésus est celui qui dépasse tous les contextes. C'est l'amour qui est en lui et qui par lui. Quand Jésus aide une personne, il va bien au-delà des jugements de chacun. Et ça, quand on relit les rencontres de Jésus, on lui pose des questions. Jésus fait comme le juif de l'époque, il pose une question. Les rabbins font ça. Pose une question à un rabbin, il vous répondra pour une question. L'intelligence aussi. Et Albert Schweitzer ne cherche jamais à culpabiliser ni à juger quelqu'un, car chacun vit l'amour à sa manière et à sa mesure. Ça, c'est assez formidable d'avoir ce regard l'un sur l'autre. Alors, il reconnaît en même temps le caractère irréalisable du commandement de l'amour qui nous dépasse tous. Mais ça, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Dans une prédication, il dit « Ce commandement de l'amour est-il applicable ?» Et il continue « Il est impossible de transposer directement dans la vie les paroles de Jésus, même avec la volonté fervente de les appliquer. Voilà. » C'est vrai que c'est difficile d'être à 100% dans l'obéissance de Jésus. C'est parce que l'amour demandé par Jésus est de fait impossible qu'il faut, selon Albert Schweitzer, pratiquer un pardon sans esprit de jugement. C'est-à-dire qu'il nous arrive à tous de nous tromper, mais il faut que les autres nous pardonnent sans nous juger et que nous on fasse pareil pour les autres. Ainsi, quand nous agissons pour les autres, ce doit être très fortement pensé, car cette action fait appel à notre responsabilité. C'est ainsi que le départ de Schweitzer pour l'Afrique et la décision des études de médecine ne sont pas des coups de tête, mais une conclusion qui s'impose à lui. Mes recherches avaient atteint leur but, le service des autres. Alors, encore deux mots très importants pour lui. L'enthousiasme, sans cesse utilisé par Albert Schweitzer. Alors, le mot enthousiasmos décrit l'état de l'homme en qui la divinité est présente. Entheo, de entheo. Donc, présent qu'il habite et qu'il inspire. Donc, emprunté au grec, c'est un transport divin, voilà, inspiré par un dieu. Et le deuxième est le mot volonté. Albert Schweitzer refuse de se l'attribuer en reconnaissant qu'elle n'atteint qu'un but, se fondre en Dieu et se confondre avec celle de Jésus. Voilà, il ne veut pas mettre sa volonté en premier, il met la volonté de Jésus avant la sienne et essaye de faire rentrer sa volonté dans la volonté de Jésus ou celle de l'Éternel. Voici, notre vie doit être pénétrée par le sentiment puissant que Dieu a besoin de nous pour agir dans le monde. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à Christine et David, parce qu'ils ont des photos.
Ah oui.
Ils vont vous expliquer pourquoi. Allez, venez.
Ah, très bref. Voilà, juste un petit mot, parce qu'il se trouve que...
Le micro.
Le micro.
Pardon.
Le micro.
Oui. Non, mais donne-lui le tien.
Ah.
Et toi, le mien, pardon.
Le mien, c'est parce qu'il n'y a pas de fil. C'est un sans fil, ça sera plus pratique.
Juste un petit mot, parce qu'il se trouve que nos,
merci,
nos familles, enfin surtout celle de Christine, ont bien connu la famille Schweitzer. La mienne l'a connue parce que, enfin, mes grands-parents l'ont connue parce que c'était alsacien et qu'ils le rencontraient chaque fois qu'ils rentraient en Alsace et qu'ils l'ont rencontré et admiré. Et puis ta famille aussi a été...
Oui, alors, moi j'ai rencontré Albert Schweitzer quand j'étais toute petite fille, puisque je devais avoir 5 ans à l'époque, et je me souviens très bien qu'on m'a dit « c'est Albert Schweitzer ». J'ai compris avec le autour de mes parents qu'il fallait être vraiment respectueux. Et voilà. Mais nous avons continué à avoir des liens extrêmement forts avec la famille Schweitzer, et actuellement avec Jean-Philippe Schweitzer, qui est donc le petit-neveu d'Albert Schweitzer.
Et puis nous sommes allés tous les deux à Lambaréné, où on peut encore aujourd'hui visiter l'hôpital. Pas le tout premier, mais celui qui est à 25 km. Donc. Et cet hôpital existe encore. Il n'est plus en opération parce qu'il y a encore un hôpital encore plus récent qui a été construit, mais juste à côté. Mais sa maison, son infirmerie, sa maison, tout est resté tout à fait comme il les a laissés en 1965. Et c'est extrêmement émouvant parce que c'est en bon état, c'est entretenu, c'est un endroit magnifique qui est très très beau au bord du fleuve. Et il y a... comme s'il était parti la veille. Il y a son lit, son...
Oui, il y a son lit, il y a
sa blouse accrochée au porte-manteau.
Sa Bible.
Sur la table de nuit, son lit est fait. Ça,
et voilà. Son piano, qui est en mauvais état, qui est en très mauvais état.
Alors, quelques
mais
photos.
Sur lequel il...
On a quelques photos.
Juste pour vous situer ça, quand on vient de Libreville, donc la capitale, pour aller jusqu'à Lambaréné, il y a à peu près 200 km. Et c'est une route qui est traversée d'ornières énormes, parce qu'il y a beaucoup de camions qui passent avec les grands arbres qui sont abattus. Donc on met beaucoup de temps pour aller jusqu'à Lambaréné. Quand j'y suis allée, j'avais dû demander une autorisation au président du Gabon, qui me l'avait accordée, et qui était très curieux de savoir comment s'était passé mon week-end. Et je lui avais dit, écoutez, c'était merveilleux, voilà, mais enfin, les routes, ce n'est pas possible, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose, monsieur le président. Il m'avait dit, je crois que je vais prendre mon hélicoptère pour regarder et voir comment ça va. Voilà. Et donc, alors, quand on arrive à Lambaréné, après beaucoup, beaucoup de kilomètres, on découvre ce lieu magnifique. Il y a une vue extraordinaire sur le fleuve. On voit par là où arrivaient les barques des malades qui venaient donc à l'hôpital.
Le fleuve Ogoué, c'était à l'époque la seule voie de communication. On venait par le fleuve.
Voilà. Ça. Donc on arrive à Lambaréné. Il y a donc plusieurs bâtiments. C'est extrêmement soigné, extrêmement bien entretenu. Et donc il y a donc on voit donc le portrait d'Albert Schweitzer. À côté, c'est la petite pièce où on met les bébés qui viennent de naître. Il y a une maternité qui est importante. Et où actuellement, il y a encore des jeunes françaises qui viennent comme sages-femmes passer quelques mois. Donc c'est très touchant. On a l'impression que voilà, que ça a toujours été comme ça et que ça restera toujours comme ça.
Ça tombait là-bas. Voilà.
Avec celle de sa femme. Et avec celle aussi de plusieurs de ses infirmières qui sont restées pendant longtemps avec lui. Alors il y a donc tous ces petits berceaux là qui sont là, le vieux piano qu'on voit aussi ici, et puis le pélican, hein, il y a toujours des pélicans. Quand on est à Lambaréné, là on l'a pas sur la photo, mais il suivait Albert Schweitzer, donc on voit Albert Schweitzer qui marche avec le pélican à côté, et tout ça reste donc très, très touchant. Et l'hôpital continue quand même, la maternité fonctionne très bien, il y a maintenant un échographe pour faire des échographies des mamans, donc tous les ans il y a quand même encore des choses qui peuvent améliorer la prise en charge donc des patients et des futures mamans.
Donc son œuvre continue, voilà.
Voilà,
merci.
J'ai un peu la légitimité, puis après, les questions vont venir. On a écouté toutes ces valeurs. Je trouvais que ça tournait autour de l'humour. Est-ce qu'il avait de l'humour? Je sais pas, de l'humour, oui, parce que il avait de l'enthousiasme. Donc avec l'enthousiasme, je m'étais dit, de l'humilité, une réserve... Ça peut être des éléments d'humour. Bon, moi, je voulais pas poser de colle.
Il n'y a pas beaucoup de blagues dans ses livres. Dans le livre qu'il écrit, enfin, je veux dire, même dans celui-là, Souvenir de mon enfance, qui est très facile à lire.
Le micro, le micro.
Dans ses livres, enfin, on peut éventuellement sourire, mais de là à rire, moi, j'ai pas beaucoup ri, moi, en travaillant. Je sais pas. Je
ne
peux pas vous dire, là.
Il y a le joli... Le joli petit texte qui est écrit par le président donc, du Gabon, le père de Omar Bongo, qui dit « Grand docteur, vous ne nous avez pas quittés, vous ne nous quitterez pas. Votre souvenir et l'esprit que vous avez insufflé resteront impérissables et votre œuvre de vie et de fraternité humaine se poursuivra, j'en suis certain, dans le Gabon de demain. »
Oui, monsieur, c'était un homme remarquable. Hein, sa vie a été au service des autres.
Alors, pourquoi le Gabon? Parce qu'on pouvait soigner beaucoup de monde en France. Oui, c'était une colonie, oui. Mais pourquoi avoir choisi un pays aussi lointain, alors qu'en tant que médecin, il aurait pu soigner aussi, bien sûr, d'autres.
Je pense que la raison a été que c'était la mission protestante de Lambaréné qui appelait. Voilà. Donc, il y avait une mission protestante à Lambaréné. Comme il était pasteur, il a répondu. Voilà. Mais au début, il ne voulait pas de lui en tant que pasteur trop libéral, mais d'où les études de médecine. Et je pense qu'il a eu, je l'ai dit à un moment, il a eu un courrier avec une lettre qui faisait part de cette demande de la mission qui attendait plein de gens pour aller en Afrique. Parce que là-bas, en Afrique...
Plus près du micro, j'ai l'impression que...
Là-bas, en Afrique, ils avaient des problèmes de...
Il ne marche pas le micro. Pour
l'enregistrer. Peut-être que j'ai appuyé là où il ne faut pas.
Voilà, donc je pense que ça vient de l'idée qu'il est tombé sur cet appel de la mission protestante à Lambaréné et qu'il est parti là-bas. Voilà. Peut-être qu'il n'avait pas envie de rester en France ou en Alsace. Il faut dire que l'époque où il a grandi, etc., et tout, il y a eu les guerres. Il a connu les deux guerres quand même. Hein. Je veux dire, et en tant qu'Allemand, on a vu qu'il en a un peu bavé. Hein.
Ce fut un grand amour pour lui que fut le Gabon et que fut Lambaréné. Parce qu'on parle d'amour, vraiment, il a donné sa vie.
On peut dire aussi que c'était pas. Oui. On peut dire aussi quand vous avez dit, on avait le choix d'être allemand au moment où la Prusse a annexé l'Alsace et la Lorraine. Effectivement, on avait le choix, mais c'est d'être choisir pour la nationalité allemande ou la nationalité française, mais ce n'était pas tout à fait un choix, parce que si on optait pour la nationalité française, il fallait qu'on déguerpisse. Donc, la plupart de ceux qui ont choisi la nationalité allemande l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Et ils auraient préféré rester français et rester en Alsace.
J'ai pas lu ça. J'ai lu que le père avait choisi, mais j'ai pas... Pourquoi ?
Il y a Patrick.
Ça va ? Oui, tout à l'heure, vous disiez que Albert Schweitzer disait qu'il fallait accepter les enseignements de Jésus, même s'il y avait des choses qui le dérangeaient. Et je me demandais qu'est-ce qui pouvait déranger.
L'enseignement de Jésus ? Qu'est-ce qui dérange dans l'enseignement de Jésus ?
Voilà, qu'est-ce qui, sans enlever ce qui dérange. Donc, qu'est-ce qui pouvait déranger ceux qui voulaient le suivre ? C'est des choses qui sont naturelles. Qu'est-ce qui pouvait être dérangeant dans ces enseignements ?
Quand il dit qu'il faut respecter chacun, c'est déjà un gros travail. Quand il dit qu'il ne faut pas juger l'autre, encore un gros travail. Et puis Jésus s'est mis tous les chefs pharisiens sur le dos, parce que les chefs pharisiens à l'époque de Jésus, ça durait depuis 80 ans à peu près, ils rajoutaient aux lois de la Torah, ils rajoutaient énormément de commandements à eux. Voilà. Et Jésus a dit, fait remarquer que ce n'était pas nécessaire, que les deux seuls commandements du Lévitique et du Deutéronome, ça suffisait. Et en fait, il a cassé le travail des pharisiens de son époque, c'est pour ça qu'il est mort. Voilà, ils l'ont éliminé. Hein, voilà. Mais en même temps, quand Jésus nous dit que nous devons concentrer notre vie sur l'amour de l'autre, alors c'est pas forcément l'amour conjugal, c'est l'amour dans ses grandes lignes, l'amour qui est le respect, qui est le regard, qui est l'écoute, qui est l'attention, qui est... Enfin, je veux dire, c'est plus qu'un arc-en-ciel, hein, l'amour, il y a plus que 7 couleurs à ça. Je veux dire, c'est pas si facile que ça à vivre. Si, vous trouvez que c'est si facile que ça à vivre? Moi, j'ai beau être pasteur, je peux vous dire que de temps en temps, je suis pas fidèle à ma mission. Parce que je me fais rattraper par mon caractère, ou par, je sais pas quoi, une colère, un énervement, ou je sais pas quoi, etc. J'ai quand même fait des progrès sur certaines choses, d'accord. Mais je veux dire, c'est extrêmement difficile de suivre Jésus à 100%. Je veux dire, ce qu'il nous demande, il ne parle pas de ce qu'on fait facilement. Il ne nous parle que de ce qui nous bouscule. Pour moi, dire je ne te juge pas, ne jugez personne, ça veut dire ne porte pas un jugement sur ce que fait l'autre, sur ce qu'est l'autre, etc. et tout. Pourquoi ? Parce que tu ne le connais pas, l'autre. Même si tu crois le connaître, etc. et tout, tu ne sais pas au fond pourquoi il a fait ça ou elle a fait ça. Donc, c'est pas, on ne juge pas, point la ligne. Ben, vous savez, combattre ça, ça prend une vie entière de combattre dans son propre plaisir. Je ne porte pas de jugement et je me tais. Voilà, ça finit par arriver. Hein, on arrive à gagner du temps. Et je veux dire, mais ce que demande Jésus ne me paraît pas si facile que ça tous les jours. Bon, on n'a pas le même caractère, hein. Peut-être que pour vous c'est facile, hein, mais bon. Je vous ai dit je, parce que je ne veux pas savoir ce que vous en pensez.
Est-ce qu'il est mort en France ou en...
Non, il est mort à Lambaréné. Il est resté là-bas. Sa femme était morte déjà depuis longtemps parce qu'elle était très très malade. Hein. Donc elle est morte bien avant lui et elle est enterrée là-bas. Mais vous pouvez lire des livres de lui parce qu'il y a, par exemple ce livre-là qui est sur lui, justement sur tout son travail qu'il a fait en Afrique, au Gabon. Et ce livre, l'avantage de Augustin Eman, c'est qu'il a rencontré des vieilles personnes maintenant, hein, quand même, mais qui ont été soignées par Schweitzer. Donc c'est absolument magnifique d'écouter ce que ces personnes disent, etc. et tout, les rencontres qu'il y a eu. Enfin, il y a même des personnes qui disent ça a changé ma vie de le rencontrer. Parce qu'il avait aussi un regard, une attitude, enfin je veux dire, ce qu'il disait, il essayait de mettre en pratique, hein, comme tout le monde. Donc ça, c'est un très 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 beau livre aussi à lire, ça. Bon, après, ça, c'est de lui, c'est lui-même qui écrit sa pensée, hein, ça, voilà, ma vie et ma pensée, donc il s'explique un petit peu, il explique un peu qui il est, etc., et tout, son cheminement, etc., et tout, là, c'est respect et responsabilité par la vie, ça, c'est le côté hippopotame, hein, le côté écologique, là, qui a démarré, les histoires d'hippopotame, hein, c'est rigolo, ça, c'est... Ce souvenir de son enfance, c'est quand il était gamin, on allait un peu parler de ça, et tout ça c'est très facile à lire, c'est un petit poche, hein, c'est pas... Voilà et tout. Alors vous avez aussi ce livre, alors ça c'est Albert Schweitzer, c'est L'Esprit et le Royaume, ça c'est un choix de ses nombreuses prédications. Voilà. Alors, c'est pas toujours évident à lire, parce que ça date d'il y a 100 ans, hein, je ne sais pas si vous allez au culte ou à la messe, mais bon, voilà. Mais je veux dire, mais il y a 100 ans, on ne parlait pas comme ça, hein, je veux dire, de Dieu, de Jésus, de la Bible, etc. et tout. Donc de temps en temps, c'est un peu décoiffant, hein, et tout. Mais bon, ça explique en même temps ce qui faisait vivre cet homme. C'est ça aussi qui est très important. Hein. Voilà, mais ça, c'est le livre sur ses prédications. Voilà. Et puis là, son fameux respect de la vie, hein, qui était un maître mot de toute son existence, etc., et tout, de toutes ses relations qu'il a créées, etc., pour bien montrer que bon, la vie, c'est vaste, etc., et tout, mais on doit la respecter. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en pratique, etc., et il a essayé de s'y tenir. Hein, donc, ça, c'est assez. Et vous trouvez sur Internet son discours là, sur le prix Nobel de la paix, voilà, qui est très long, hein, mais bon. C'est un homme qui avait un cerveau, hein, je veux dire, qui a fonctionné, hein, je veux dire, qui l'a fait travailler. C'est un homme qui est né extrêmement intelligent, hein, etc., mais qui a mis son cerveau au service de sa vie, etc., et tout. Enfin, pour être à la fois pasteur, il faut faire des études aussi quand même, il faut être médecin, etc., et tout, jouer de l'orgue, c'est compliqué. Vous avez vu les photos d'orgue, enfin, je veux dire, les pieds, comme vous voyez un organiste jouer, entre les pieds et les mains sur quatre claviers, oh, comment il fait, hein, pour faire tout en même temps, là, les deux pieds et les deux mains en même temps, bon, je veux dire, c'est compliqué. Et non, voilà, c'était son métier aussi, il a fait plein de concerts comme ça, énormément en Europe pour pouvoir gagner de l'argent pour l'embarrasser. Enfin, je veux dire, c'était quand même un homme d'une très très grande intelligence, présence de vie, choix, ses engagements, etc. et tout. Enfin, je veux dire, moi je ne le connaissais pas quand j'ai démarré mon travail, je peux vous dire que je suis époustouflée. De sa vie, quand je veux dire, c'est... Alors,
Ça aussi, ça c'est Guenbin, Laurent Guenbin, c'est un professeur de théologie qui est à la retraite, mais que j'ai eu comme prof moi, quand j'ai fait mes études de théologie il y a un certain temps, voilà, qui a écrit ce livre sur Albert Schweitzer et qui donne un aperçu de toute sa vie, mais sauf de l'Afrique. Il ne parle pratiquement pas de l'Afrique. Voilà. Mais c'est déjà un bon quand on démarre. Et sinon, si vous allez sur Internet, vous tapez Albert Schweitzer, etc. et tout, vous allez tomber sur le musée Albert Schweitzer, qui explique énormément de choses, qui montre beaucoup de choses, etc. et tout. Et puis vous pouvez avoir accès à plein de textes qu'il a écrits ou sur lui, etc. et tout. Et ça, c'est. Vous pouvez continuer votre découverte.
Voilà. Le mot n'a pas été dit, mais finalement, par rapport à son époque, c'était vraiment une époque très colonialiste avec tous ses égarements. Il était vraiment pas raciste pour faire ce qu'il a fait. Et est-ce qu'il s'est engagé dans des discours antiracistes? Est-ce qu'il a mené ce combat contre le racisme?
Il a pris des paroles, en tout cas. Alors, le racisme, je ne sais pas, je ne dirais pas ça, mais contre la guerre, ça c'est clair, le nationalisme, comme il disait, et puis, pas le nazisme, il disait le nationalisme, etc. Et, tout. Et puis contre le colonialisme. Voilà, mais pas le racisme, mais bon. Dans le colonialisme, il y a des formes de racisme.
Oui, il n'était pas très loin encore.
Non, mais il n'utilisait pas le mot. Mais d'accord. Est-ce que c'est un mot qui existait à l'époque? C'est ça aussi la difficulté. Parce que je veux parler de ça. Je veux dire, le colonialisme à l'époque était quand même. Je lui ai parlé à un moment où c'était vraiment. On utilisait le pays pour. Le pays qui colonisait l'autre s'enrichissait, en lui prenant tout ce qu'il avait, et puis esclavagisait. Les habitants de ce pays, etc. Et, tout. Et ça, il s'est ligué contre. Je veux dire, dans le livre qu'on voit là sur l'Afrique, là, etc. Et tout, il y a des personnes, donc la plupart sont des Africains qui ont été soignés par Schweitzer et qui disent mais c'est la première fois qu'un blanc me parle comme ça. Il le ressentait, mais d'une force forte. Enfin, je veux dire, voilà, et il disait, mais.
À égalité.
Lui, il ne voyait pas qu'on était noir. Il voyait un homme ou une femme malade. Voilà, donc je veux dire, il n'y avait pas. Et ça, c'est remarquable d'avoir ce regard-là aussi, etc. Et tout, et pour avoir passé 50 ans de sa vie presque là-bas, etc. Et tout. Voilà, mais c'est lui qui s'en est pris plein la figure, hein, de racisme et de réflexion, etc. Et tout, parce que ça. Ça a été mal compris, ou alors ce qu'il faisait était tellement beau qu'il y a des gens qui fallait, il y a des gens qui ont besoin de saper ce que font les autres bien. C'est comme ça. C'est notre genre humain qui est comme ça.
Je voulais simplement dire que notre thème étant figure marquante, alors ça c'est vraiment le cas, figure manquante. Et je trouve que dans notre monde d'aujourd'hui, un homme comme ça aurait une présence indispensable et ça nous manque beaucoup.
Mais disons que peut-être qu'il représente 5 ou 6 personnes en même temps, lui. Hein.
Oui,
c'est ça ma question. Tout à fait. Parce qu'il y a plein de médecins qui font le tour du monde, par des associations.
Bien sûr.
Et tout. Oui. Voilà, ça existe. Je veux dire, il y a beaucoup de.
Il est très complet.
Voilà, il y a beaucoup. Oui, mais lui, il a tout fait en même temps. Alors que bon, peut-être que c'est. Aujourd'hui, 4 ou 5 personnes.
Pas exceptionnel. Voilà. Merci Isabelle, en tout cas, c'était formidable.
Merci beaucoup.
Avec plaisir. J'ai découvert un homme formidable.
C'est pas pour conclure, hein. C'est pas pour conclure, je voulais juste le dire. Patrick, on
va dire. Encore une petite question. Quel est le thème du film Les Minuits du Dr Schweitzer et pourquoi ce titre?
Alors je renvoie à quelqu'un qui l'a vu. Je n'ai jamais vu, moi, ce film.
Vous
l'avez
vu?
Non. Je n'ai jamais vu.
Quel est le titre? Le sens?
Quel est? Il me semble par son.
Le cinéphile.
Je l'ai vu il y a vraiment très très longtemps, mais il me semble que ça se termine par son expulsion de Lambaréné. Au moment de la Première Guerre mondiale.
C'est pour ça qu'on dit il est minuit, le docteur Joseph, c'est-à-dire qu'il fait noir. Quoi.
Il est l'heure
de faire. Il y a une date pendant laquelle il est libre. Et la guerre a arrêté à partir de. Voilà. Donc on lui a dit, docteur Schweitzer, partez parce que.
C'était l'Allemagne qui...
Oui, il avait 24 heures
pour partir. Oui, il avait 24 heures pour partir.
Le film est là-dessus, alors. Pardon ? Le film est là-dessus.
Oui.
D'accord. J'ai pas vu le film, mais j'ai lu le bouquin de Sussex.
Ah.
C'est quoi micro ?
Il y a un livre aussi qui s'appelle Les Minuits
de Chaudière. Bon.
J'ai pas lu le livre, mais j'ai lu la pièce de Sussex.
Ah, d'accord. Là, je l'ai montré parce qu'il n'y a qu'un seul film comme ça. Hein, je veux dire, mais je n'ai pas vu.
Il avait choisi l'embarrainé parce que c'était au Le Gabon. Hein. Est-ce que le Gabon n'était pas sous protectorat allemand à l'époque ?
Si, bien sûr. Si.
Qu'est-ce qui l'a amené à choisir l'embarrainé ? Est-ce que c'était parce qu'il était aussi un fief de la lèpre et
des partis ? C'est la mission protestante de l'embarrainé qui appelait.
Qui s'était attaqué à
la... Comme il était pasteur, il a été au courant de l'appel de la mission protestante. D'accord. Après, je ne sais pas si c'était colonisé par qui. Je ne sais pas. Je n'ai pas cherché. Excusez-moi, je n'ai pas cherché.
C'était colonie allemande. Hein.
Colonie allemande ?
Oui, c'était colonie allemande.
C'était colonie allemande, c'était sous protectorat allemand.
Oui, oui, comme le Cameroun. Comme le Cameroun, ça faisait partie des colonies allemandes, dont c'est le Cameroun était le plus important.
De l'époque.
Voilà.
C'est ça.
À ce moment-là, du coup, il y avait beaucoup d'Allemands à ce moment-là au Gabon.
Bien sûr.
Et alors, ils ont tous été expulsés du Gabon.
Ah ben après,
ils ont perdu.
Après la fin de la Première Guerre mondiale, les Allemands ont perdu toute leur colonie, le Cameroun.
Voilà.
La Namibie, le Gabon, le.
C'est ça.
Ah d'accord. Ok. Ah, je n'ai pas du tout cherché de ce côté-là. Voilà, bah, écoutez, bonne découverte de cet homme. Continuez dans vos recherches, hein, etc. Et tout. Je n'ai lancé qu'un petit pourcentage. Continuez de travailler avec cet homme parce que vous allez voir qu'il est assez formidable dans les livres écrits sur lui et dans les livres qu'il a écrits lui-même. Voilà, c'est surtout ça qui est bien. Voilà.
Merci beaucoup. Merci.